This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
Sephora stores are everywhere you are, so just pop in when you need a brown lip to match your 90s playlist, a confidence boost before your interview, or a last-minute gift for mom's birthday. There's always a Sephora near you. Just pop in. Use our store locator to find your local Sephora or Sephora at Kohl's.
Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Sabine Roux de Bézieux, la présidente de la Fondation de la Mer, l'association qui soutient de nombreux acteurs pour renforcer et accélérer leur impact positif en faveur de l'océan. Quel beau combat!
Merci Alice, merci de me recevoir.
Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Tu vas devoir me rappeler un peu en quoi consiste la Fondation de la Mer et ton rôle. Bon, tu es présidente, mais quand même ton rôle au sein de cette fondation.
La Fondation de la Mer a été créée parce que la France a réalisé qu'elle n'avait pas une grande fondation pour s'occuper de l'océan. Alors que l'océan, c'est 70% de la surface de la planète, que la France a le deuxième espace maritime au monde avec pas loin de 11 millions de kilomètres carrés sur tous les océans de la planète, et que nous n'avions pas de fondation pour rassembler tous ceux qui s'engagent pour une mer propre, libre et valorisée avec sagesse.
Tu me dis tous ceux qui s'engagent, c'est qui s'engage concrètement?
Ce sont des scientifiques, des associations.
Mais des gens déjà sensibles en fait.
Des enseignants. Des gens un peu sensibilisés qui ont compris que sans l'océan, notre planète n'existerait pas. Tous les spationautes qui vont dans l'espace, un Thomas Pesquet, quand il revient, ils s'engagent tous pour l'océan.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ont découvert que notre petite planète, notre petite bille bleue est unique dans l'univers. Et que ce qui fait qu'elle est unique, c'est justement cet océan mondial.
Elle est composée à combien de pourcents d'eau d'ailleurs
71% de la surface de la planète.
Mais c'est drôle justement parce que ça c'est un chiffre. Quand là on est récemment à la journée mondiale de l'eau et que j'ai alerté, j'en ai parlé sur mes réseaux, mes abonnés me disent « Oh l'eau, attends, on est composé à 70% d'eau, on ne va pas en manquer demain, il y a d'autres choses, il y a d'autres urgences. » Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là?
Que l'eau douce, c'est 3% de la totalité de l'eau qui est disponible. 97% c'est de l'eau salée dans la mer et 3% seulement de l'eau douce. Alors l'eau douce, il fallait la chercher dans les fleuves, dans les rivières, dans les nappes phréatiques. Et on s'aperçoit qu'année après année, ces réserves d'eau douce diminuent. On s'aperçoit qu'il y a des guerres qui sont menées aussi pour l'eau. Et donc, protéger l'eau, c'est absolument majeur. Et puis c'est important aussi parce que dans l'eau, dans les fleuves, les rivières, dans les glaciers des montagnes, à partir de là, se découlent toutes les pollutions qui viennent dans l'océan. Et on voit bien, on a vu beaucoup de films catastrophes qui montrent la quantité de plastique, par exemple, qu'il y a dans l'océan. Ce plastique, il ne vient pas de nulle part à 80%, il vient de la Terre. C'est ce qu'on appelle la pollution tellurique, elle vient de la Terre. Et donc, ce qui se passe dans l'eau concerne ce qui se passe dans l'eau douce, dans les fleuves, les rivières, concerne ce qui se passe aussi dans l'océan.
J'ai lu qu'en 2000, c'était en 2040, donc ça c'est la fin du plastique à usage unique, mais je crois bien que c'est en 2040 ou en 2050 qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans.
Alors oui, des scientifiques disent qu'il y aura une biomasse plus importante de plastique.
Donc, concrètement, comment on agit du coup? Parce que là, c'est pas possible, parce qu'il y a aussi toute une biodiversité marine à entretenir, qui est quand même notre... c'est notre écosystème.
Alors, il faut agir contre le plastique, il faut agir à terre, parce que l'idée de ramasser le plastique en mer, on en rêve tous, parce que ce serait tellement pratique. On déverse dans l'océan et puis on se dit que quelqu'un va ramasser.
On peut même pas dépolluer les océans, c'est impossible.
Je suis désolée Alice, je dois vous dire ça, on peut pas dépolluer l'océan.
Oh mon Dieu.
Donc, en revanche, il faut arrêter tout cela à terre. Donc, nous avons un programme à la Fondation de la Mer qui s'appelle Un geste pour la mer, avec 250 associations partout sur le territoire français, également en Afrique, qui organisent des collectes de déchets avec des citoyens engagés.
Et c'est que le plastique qui pollue ou il y a d'autres matériaux?
Non. Il y a énormément de polluants. Mais c'est vrai que le plastique est vraiment majeur parce que le plastique est ingéré par les poissons que nous les consommons ensuite.
En fait, on s'autodétruit, quoi, finalement. Si demain, parce que toutes les entreprises aujourd'hui s'engagent contre le plastique, on essaie, puisque même le consommateur, pour le coup, il est sensibilisé au plastique, il est moins sensibilisé aux océans, c'est-à-dire qu'on dit « Ah non, le plastique, c'est pas fantastique du tout, c'est terminé, ce slogan », mais on n'a pas forcément conscience que derrière, c'est l'océan qui en pâtit, quoi. On a juste l'impression qu'il faut réduire le plastique parce que c'est pas bon, et aussi pour notre santé. Parfois, on nous met dans la tête que le plastique, c'est mauvais pour la santé, alors que finalement, c'est le plastique qu'on ingérerait via le poisson qu'on mange, si j'ai bien compris.
À peu près. En fait, c'est vrai que les entreprises n'ont pas du tout l'impression qu'elles ont un impact sur l'océan. D'ailleurs, nous, comme citoyens, on n'a pas forcément l'impression, nous non plus. On lève la tête, on voit le ciel, on voit bien la pollution du ciel. La pollution de l'océan, elle est beaucoup plus éloignée. On en a la chance de la voir uniquement une fois par an quand on va au bord de la mer l'été et on s'aperçoit, quand on a la chance de pouvoir partir. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un enjeu pour l'océan. Mais sinon, ça semble lointain.
Et même, est-ce qu'on le voit vraiment? Tu me dis que c'est au fond, donc on ne le voit pas vraiment. Si, tu le vois quand même.
Les pollutions, en plein été, on les voit assez peu parce que les communes nettoient leurs plages tous les jours. Et donc, le vacancier heureux a la chance de ne pas voir de pollution. Mais quand on va année après année au même endroit, on s'aperçoit qu'il y a moins d'algues, moins de poissons, moins de vie au fond de la mer si on met la tête dans l'eau.
Et là, tu me dis que les marques, du coup, n'ont pas trop conscience de ça. Elles ne s'engagent pas. Et toi, parmi les personnes qui accompagne la fondation, ou que vous accompagnez plutôt parmi vos clients. Je ne sais pas trop si c'est des clients, vous êtes payés, peut-être rémunérés par les marques, je ne sais pas d'ailleurs comment ça fonctionne, vu que c'est une association.
C'est du mécénat, une fondation fonctionne avec du mécénat, mais on accompagne beaucoup de marques. Alors, évidemment, il y a des marques qui sont directement liées à l'océan, des marques solaires, par exemple, ou des marques d'eau, pour certaines, les plus pionnières. Et puis, beaucoup d'entreprises ne réalisent pas qu'elles ont un impact sur l'océan. Elles ne réalisent pas, par exemple, que leurs émissions de CO2 sont directement liées à l'océan, puisque l'océan absorbe un tiers du CO2 qui est produit par nos activités humaines.
Et il l'absorbe, mais il ne le rejette pas, donc c'est-à-dire que
c'est
contenu.
Il l'absorbe, et ensuite le phytoplancton, qui est, en fait, ce sont ces tout micro-organismes qui vivent dans l'océan, le phytoplancton, avec la photosynthèse, si vous vous souvenez vos cours de SVT du lycée, transforme le CO2 en oxygène. Et donc la moitié de l'oxygène qui est aujourd'hui dans l'atmosphère provient de l'océan.
Donc en fait, l'océan nous sauve.
Et l'océan nous sauve. Si on n'aurait pas de climat, on n'aurait pas le climat tempéré dans lequel on peut vivre et on ne pourrait pas respirer et vivre si on n'avait pas un océan en bonne santé. Et donc il faut à tout prix limiter ces émissions de gaz à effet de serre pour notre survie. Donc ça, c'est le premier point, c'est le CO2. Le deuxième, c'est la pollution. Évidemment, l'océan, s'il doit bien fonctionner, doit servir de régulateur du climat, il faut qu'il ne soit pas pollué, que toutes ces espèces marines continuent à se développer et à croître. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et puis enfin, il faut s'assurer de ne pas trop prélever dans l'océan.
Prélever
de ressources. Alors, on connaît les forages de gaz, de pétrole. Aujourd'hui, il y a des projets d'aller forer pour aller chercher des terres et des métaux rares. Parce que l'océan, c'est le grand univers de l'inconnu. Il y a encore 90% des espèces à découvrir dans l'océan.
C'est génial.
90%. Alors, évitons d'aller les détruire avant même de les avoir découvertes. Parce que ce sont probablement des molécules qui vont nous permettre d'aller sauver des milliers de vies dans lesquelles il y a des...
Et ce phytoplancton, alors moi je suis devenue Jamie là dans ma tête, on ne peut pas le cloner? Vu qu'on a inventé le clonage, on ne peut pas le dupliquer?
Ah mais si, on peut faire pousser du microplancton. Mais vous imaginez, l'océan c'est 1 milliard de kilomètres cubes.
Ouais.
Donc vous n'allez pas pouvoir cloner autant de phytoplancton qu'il faut pour pouvoir absorber
la planète,
le CO2. Hein. C'est justement ce qu'on fait quand on restaure des écosystèmes marins comme des mangroves ou des récifs coralliens. C'est ce qu'on fait à la Fondation de la Mer. On a plusieurs dizaines de programmes qui permettent justement de protéger ces écosystèmes qui sont menacés. Pourquoi? Parce que ce sont dans ces habitats, en fait, c'est comme des villages pour la vie marine. Ils vivent dans des villages qui peuvent s'appeler des mangroves, donc ce sont des forêts dans l'eau, ou des récifs coralliens, ou des forêts d'algues dans nos eaux tempérées. Donc en protégeant ces espèces-là, d'abord on capture du CO2, et en plus on permet à la vie marine de continuer à exister.
Il y a un sujet justement sur les algues, entre guillemets, qui polluent les plages. Qu'est-ce que tu en penses de ces algues? Est-ce qu'elles sont utiles ou qu'elles sont là? Enfin, moi, je ne sais pas. En fait, c'est vraiment une question personnelle, mais que beaucoup se posent. J'ai vécu dans le Calvados, mes grands-parents y sont, et c'est dégueulasse, et toutes les algues qu'il y a partout. Mais si elles sont là, c'est qu'elles ont bien une utilité à l'écosystème marin, non?
Alors,
c'est de la pollution marine aussi.
Il y a pas mal de types d'algues. Certaines sont absolument indispensables parce que ce sont des lieux de vie. Et puis d'autres, on en a pas mal parlé à une époque, c'est les algues vertes qui s'accumulent sur les plages, notamment en Bretagne Nord, qui sont extrêmement dangereuses parce qu'elles émettent des gaz qui peuvent tuer des animaux, mais aussi des êtres humains. Et donc, ces algues, elles sont générées par un excès de matières qui proviennent notamment des élevages de porcs.
Donc, en fait, encore une fois, c'est, elles sont
la,
pas la
c'est
nature.
C'est l'activité humaine. Okay. Et donc, nous, ce qu'on fait à la Fondation de la Mer,
ça. Comment on fait, là,
c'est de travailler avec les marques pour qu'elles puissent comprendre leur impact sur l'océan. On a développé toute une série d'outils, un référentiel océan, un label qui s'appelle Ocean Approved.
C'est-à-dire que si là, je suis une marque et je me dis, oula, je sais pas. En fait, je ne sais pas, sans doute, l'impact de mon activité. Est-ce que je peux t'appeler, enfin, vous appeler et dire, est-ce qu'on peut faire un audit de mon activité? C'est ça?
C'est exactement ce qu'on fait. Okay. On va travailler avec les entreprises, avec une logique bienveillante et positive.
Et yes, on aime bien, nous, ça aussi, dans l'empreinte.
Ça ne sert à rien d'aller dénoncer. Hein. Nous, on est action-oriented.
Justement, la personne qui se dit, j'ai besoin de savoir, faut l'aider, quoi. Faut peut-être lui dire, bon, alors là, c'est une catastrophe, mais au moins, vous savez maintenant.
Exactement. Et en fait, ça ne sert à rien d'aller dénoncer les entreprises. Il vaut mieux aller travailler avec elles et on les aide à regarder de façon holistique ou globale leur impact sur l'océan. Alors évidemment, les entreprises n'ont pas toutes le même impact. Quand vous êtes un hôtel, c'est la quantité d'eau que vous consommez, c'est le poisson que vous servez dans votre restaurant, c'est les petits goodies que vous mettez dans les salles de bain. Voilà. Si vous êtes une agence de pub, ça va être savoir où vous tournez vos publicités, comment vous conseillez vos clients sur leur message. Vous voyez, donc il faut que les chefs d'entreprise ou nous, comme citoyens, comme parents, prenions conscience que nous pouvons faire quelque chose pour l'océan. Et c'est vraiment ce qu'on fait à la Fondation de la Mer. Par exemple, on travaille aussi avec des écoles.
Ah, ça,
on a créé un concours fabuleux qui s'appelle Art en plastique, comme le cours, pour l'océan. Et le principe est très simple. Les enseignants, avec leurs élèves, ramassent des déchets plastiques ou ramènent des petits trucs en plastique. Vous savez qu'on a parfois les petits goodies en plastique qui sont vraiment bons à acheter à la poubelle. Et bien, ces enfants les ramènent et créent des œuvres d'art avec cela. Et d'ailleurs, les deux œuvres d'art qui ont gagné l'année dernière sont dans le bureau du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en ce moment.
C'est génial.
Et là, il y a des dizaines de milliers d'élèves qui ont été mobilisés, qui ont participé à ce concours Art en plastique pour l'océan de la Fondation de la Mer.
Donc toi, c'est vraiment le plastique, ce que tu vois comme sujet émergent pour les océans, c'est quand même le plastique, non?
Alors, c'est toutes les pollutions.
Toutes les pollutions.
Et en fait, ça conduit à aider les entreprises à penser ce qu'on appelle économie circulaire. C'est-à-dire, au fond, quand on pense la fabrication d'un produit, s'assurer qu'on prélève le moins possible, voire pas du tout, de ressources non renouvelables. C'est-à-dire, on ne prélève sur la planète que ce qui est renouvelable.
Donc, dès la conception, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception,
exactement.
Justement.
D'accord. Donc ça, ensuite, dans les procédés de fabrication, de les rendre les plus sobres possibles, de produire localement, avec le moins d'émissions possibles. Et puis ensuite, penser à la fin de vie d'un produit.
Qui ne se retrouve pas dans nos océans.
Exactement. Et puis même penser, dès sa conception, à la manière dont il va être recyclé. Et réparer, parce que c'est très important aussi.
Et tu y crois, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de marques et toutes s'engagent sur le plastique, vraiment, parce que de toute façon, elles n'ont pas le choix, puisque 2040, fait du plastique à usage unique, si on s'y tient. Et puis globalement, il y a la réglementation qui tombe. On doit quand même vraiment supprimer, recycler notre plastique. Le plastique est recyclable 3-4 fois, je crois bien. Mais là, il y a des marques qui planchent sur le plastique recyclable à l'infini. Tu y crois, ça, ou pas?
Oui, moi, je suis prête à croire tout ce qui est positif.
Et donc, ça voudrait dire que là, la seule, vu que ce serait recyclable, on pourrait tout recycler, c'est à nous, concitoyens, de faire attention à la fin de vie, parce que finalement, ce qui se retrouve dans les mers, c'est aussi beaucoup à... J'aime pas culpabiliser le consommateur, parce que je suis la première à dire, faut arrêter de l'éco-anxiété, faut arrêter de nous culpabiliser, mais finalement, là, c'est quand même presque un geste citoyen, d'arrêter aussi.
Bien sûr, c'est bien pour ça que notre programme s'appelle Un geste pour la mer. Chacun peut agir. Et c'est ce que nous essayons de faire passer comme message.
Tu crois vraiment pas que si je vais plonger, je peux ramasser ta plastique?
Ah ben, si, tu peux aller ramasser des gros déchets qui seront pas encore décomposés en nanoplastiques.
C'est ça, c'est que ça se décompose et que...
Ouais. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'océan, ça fait rêver tout le monde.
Ouais.
L'océan, c'est au cœur de tous les enjeux d'aujourd'hui. Le climat, la biodiversité, parce que c'est là d'où vient la vie, l'océan. La vie est née dans l'océan. Et on a encore tellement de choses à découvrir que l'océan nous fait tous rêver. Et donc, une marque qui va s'intéresser à l'océan, au fond, elle va cocher la case climat, cocher la case biodiversité, cocher la case plastique, pollution,
et
économie circulaire.
Parce que l'océan, c'est beau.
Et faire rêver tout le monde, mobiliser ses collaborateurs.
Et t'en as beaucoup, toi, des marques, d'ailleurs, où t'en as pas assez, tu trouves justement...
Pas assez.
On fait un appel, vous écoutez les marques, donc franchement, allez-y, moi je sais qu'il y en a pas mal dans les auditeurs. Non, mais c'est vrai, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je t'ai dans l'empreinte, c'est que c'est un sujet. Moi, mes abonnés sont souvent là pour me donner des sujets... C'est un sujet qui revient, on me fait « bah oui, mais nos océans, on n'en parle pas ». Je suis désolée, mais moi, les marques, m'en parlent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas dans leurs engagements. Alors, c'est biodiversité, mais on parle de forêt. C'est plastique, mais on s'arrête au plastique. Mais les océans, je n'ai pas. Donc là, je vais essayer vraiment, même moi, d'ailleurs, si tu as des marques, toi, qui s'engagent, c'est important aussi qu'on puisse les écouter. Et c'est quoi tes next steps, alors, tes perspectives?
Nous, d'abord, c'est d'entraîner les entreprises à se faire labelliser Ocean Approved, donc approuvé pour l'océan.
C'est un label qui consiste en quoi concrètement ?
Bah, à regarder dans toutes ces opérations ce qui a de l'impact sur l'océan.
D'accord, voilà. Très bien.
Donc c'est relativement simple, hein. Il y a 44 indicateurs.
Mais c'est un label à avoir, c'est-à-dire que si elles ont un impact, il faut qu'elles travaillent pour avoir le label.
Alors, le label valorise, parce que c'est notre philosophie, d'accord, les entreprises qui s'engagent.
Ok, donc même si elles ne sont pas vertes...
Les plus vert foncé ou bleu marine peuvent être labellisées.
Donc ça, mais c'est important quand même de le dire aux consommateurs, là, si vous nous écoutez, que si elles sont Ocean's Approved, ça ne veut pas dire qu'elles sont nickel, quoi.
Non, mais personne n'est nickel.
Mais ça veut dire que...
Mais déjà, ça veut dire qu'elles ont pris conscience
et qu'elles ont
mis en place un plan d'action. Donc nous, on va être évidemment assez attentifs à la qualité du plan d'action.
Il y a un suivi, forcément, derrière.
Et ensuite, le label, il est pour 3 ans. Au bout d'un an et demi, on fait le point par rapport au plan d'action qui a été fixé, et on vérifie que l'entreprise a effectivement mis en œuvre le plan d'action qu'elle avait défini. Et puis, au bout de 3 ans, on repart sur le processus.
Oui, donc c'est un vrai, en fait, c'est un engagement, c'est un suivi, c'est un engagement.
Mais moi, je vois bien les chefs d'entreprise, les marques avec lesquelles on parle, c'est des gens qui sont motivés, qui sont pionniers, qui aiment l'océan,
qui ont
envie
de faire quelque
chose.
Quand déjà, tu as envie de faire un audit, c'est que tu as envie de t'améliorer, j'ai l'impression. C'est
exactement
comme quand tu vas faire un bilan sanguin.
Voilà.
Tu as envie de voir où tu as des carences. Non, mais c'est vrai, finalement, c'est la même chose.
Et donc, on s'aperçoit que c'est souvent des patrons ou des dirigeantes qui aiment la mer et qui ont compris pourquoi la mer est si importante pour l'humanité, qui se disent, bah, tiens, moi, je vais faire labelliser mon entreprise, je vais me poser cette question-là et puis je vais embarquer dans ce projet toutes mes équipes et puis mes clients. Parce qu'évidemment, l'entreprise, la marque, elle a un rôle majeur sur le comportement de ses consommateurs.
Mais tu connais l'association One Person for Ocean ?
Oui, bien sûr, on est enregistré chez eux.
Ah, ouais. Super. Mmh. Oui, alors moi, si tu vois, c'est la seule, finalement, que je connais pour l'océan. Après, je connais des petites initiatives.
Bah maintenant, tu connais la Fondation de la mer.
Bah oui, non, mais bah, non des moindres. Pas. Est-ce que tu aurais. Déjà, est-ce qu'on a oublié de parler de certaines choses que tu aurais aimé évoquer dans le podcast ?
Non, mais je pense qu'on a parlé des points importants, c'est-à-dire la protection de la biodiversité marine, avec leurs habitats, donc les coraux, les herbiers marins. Vous savez, en mer Méditerranée, il y a ce qu'on appelle les herbiers de Posidonie. C'est une sorte de forêt, de grandes plantes sous-marines dans lesquelles se reproduisent et vivent la grande majorité de la biodiversité marine. Donc, on protège ces herbiers-là, on protège les mangroves, donc les forêts dans l'eau. Après, on protège aussi des espèces en particulier. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé. On n'a pas parlé des mammifères marins, on n'a pas parlé des tortues.
De la biodiversité, tout
voilà,
ça.
De toutes des poissons demoiselles dans les récifs coralliens.
Justement, c'est drôle. Tu sais, je pense pourquoi on est moins, entre guillemets, affectés par leur vie. C'est parce qu'on ne les voit pas.
Mais oui.
Et en fait, vous savez quoi ? On leur fout la paix à ceux-là. Ils vivent, justement. Heureusement qu'on ne les voit pas, en fait.
Oui, alors ceux qui ne vont pas bien qu'on voit, c'est les oiseaux marins.
Bah ouais.
Moi, j'ai une affection toute particulière pour les oiseaux marins.
Tu les vois ?
Je les vois chez moi en Bretagne et
ils
font totalement rêver. Surtout les oiseaux migrateurs qu'on voit arriver au printemps, passer l'été en France.
Moi, je vois des pigeons, c'est pas terrible.
Hein. Oui, ça fait un peu moins bien. Il y a des mouettes parfois à Paris.
Ah oui, mais moi, les mouettes, elles ne sont pas gentilles. Quand j'étais petite, il y en a une qui a voulu m'attaquer. Depuis, je ne suis pas très fan des mouettes.
La biodiversité marine, c'est tout de même extraordinaire. Le climat, parce que l'océan, c'est le régulateur du climat.
Ça, je savais.
Avec tout ce qu'il a de beau.
Je ne savais pas. Non, c'est dingue, tu vois. Moi, j'ai appris ça, donc c'est hyper important.
Voilà.
Ça veut dire. On cherche tous 36 milliards de solutions, mais en fait,
on les a.
Alors, on les a, ces solutions.
Au fond, on a une empreinte bleue.
On
a une empreinte bleue et on n'y pense jamais à son empreinte bleue.
Ouais.
Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire à la Fondation de la Mer, c'est de dire à nos donateurs et à tous ceux qui s'engagent avec nous, réfléchissons à notre empreinte bleue et agissons ensemble pour la réduire, culpabiliser.
Tu m'as trouvé la phrase d'accroche du podcast, notre empreinte bleue, ça va très bien avec l'empreinte. Non mais c'est vrai, sans culpabiliser, continuer. De toute façon, c'est tellement beau. En fait, en conciliant le beau à l'écologie, à l'amour de l'humain, on ne peut que faire mieux. Enfin, quand on a un bon fond aussi et qu'on essaie de... Tout le monde a conscience. D'ailleurs, ceux qui ne veulent pas, les climato-sceptiques, parce que j'ai appris dans le dernier épisode, que du coup, je vous invite à réécouter, vu que vous l'aurez, il sera déjà sorti, que 50% des Américains étaient climato-sceptiques.
Ah oui, je ne connaissais pas le chiffre.
Bah voilà. Bah, désolée pour les co-anxiétés là du jour,
c'est moral atteint là.
Ouais, moral atteint aussi. Moi, ça m'a atteint. C'est-à-dire que nous, on a tous l'impression qu'on est tous au courant. Donc non, il faut continuer à sensibiliser justement. Et je pense que si ces gens-là sont climato-sceptiques, c'est qu'ils sont angoissés, qu'ils n'ont pas envie de savoir. Alors qu'en amenant le sujet de façon bienveillante, en arrêtant de culpabiliser, en montrant qu'il existe des solutions et qu'on a la solution, tu me parles que l'océan est là, que c'est une solution. Bah, tout le monde prend conscience que on peut agir en fait. En fait, c'est normal de rejeter en bloc quelque chose si on me dit demain c'est la fin du monde mais vous avez pas de solution. Donc bon courage. Moi je pense que je virerais climato-sceptique en disant je vais peut-être mettre des œillères, ça ne sert à rien. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens rejettent le sujet.
Ouais, et puis il ne faut pas oublier que l'océan, c'est aussi une source d'inspiration incroyable pour les artistes. Vous voyez, la poésie, la littérature, ouais, la musique, la photographie, voilà.
C'est un de mes...
Et je pense qu'on a tous un livre,
ouais, c'est
une musique
l'un de mes préférés.
Dans sa mémoire d'enfant, ouais. qui nous a inspirés, qui nous a fait vibrer. Et c'est quelque chose sur lequel on peut aussi s'appuyer pour sensibiliser tout le monde sur l'enjeu de l'océan. Parce qu'on a ses souvenirs d'enfance, ses souvenirs de famille.
Madeleine de Proust.
Voilà, de Madeleine de Proust.
Beaucoup ont des souvenirs à la mer. Et d'ailleurs, je pense que c'est le rêve de tout enfant. Et il faudrait que les associations se mobilisent pour les emmener voir la mer aussi. Peut-être que ça pourrait aider.
Bien sûr. Faire des classes de mer et emmener les gamins, bien sûr. Ouais. Il y a beaucoup d'associations qui font ça. Et nous, on les aide aussi. Ouais. C'est important.
C'est important.
La mer pour tous.
Ouais. Un geste de tous et la mer pour tous, t'as raison. Bah, écoute, merci, j'étais ravie de t'avoir dans l'empreinte aujourd'hui. En plus, toi, tu m'as remonté le moral parce que je sais qu'il y a des solutions. Et par contre, tu m'as donné envie d'aller voir la mer. Donc, il va falloir que je trouve un moyen d'y aller à pied ou à vélo pour limiter mon empreinte. Mais merci Sabine d'être venue jusqu'ici. Je ne t'ai pas appelée Sandrine d'ailleurs.
Mais merci Françoise. Oh pardon, merci Alice.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.